Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
On démarre avec un jeu. C'est quel jeu aujourd'hui pour savoir qui c'est qui dit le...
On fait quel jeu?
Oh, c'est celui qui mange le plus vite son friand.
Alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Vraiment.
Yedré, les dernières fois, on a fait un petit bac, on a fait un Shifumi. Il faut juste un jeu pour sélectionner une des trois personnes. T'as un jeu, toi?
J'ai inventé un jeu, là.
Ouais.
À okay. L'instant.
Okay.
Car avec moi, je vous préviens, ça fuse. c'est pour savoir qui commence.
Ouais. Ouais, c'est celui qui perd qui commence.
Okay. Je vous donne un mot.
Ouais.
Et le premier qui arrive à me chanter une chanson contenant ce mot commence.
Yes. Je suis sûr que c'est moi.
Je te jure, Ramzi. Écoute-moi bien. Sur la tête de ma chatte. Si jamais c'est une chanson, t'as pas les paroles exactes, ça vaut pas. D'accord?
C'est pas grave.
Allez. Okay. Vous êtes prêts?
Ouais.
Le mot est chaussette.
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois.
Franchement, je suis désolée, vous l'avez fait vraiment en même
en temps. François a perdu.
Oui, François, vraiment, il est sur le bord.
En fait.
Oh. Ah ouais. Non, non, François, il est sur le bord de la route, vraiment.
Mais non, c'est dégueulasse, on a dit qu'on faisait ça en plusieurs manches.
Eh ben non, c'est trop tard.
Bah non,
il y a
en plusieurs manches, il y a avec un gagnant, mais là, on est gagnant ex aequo, donc qui c'est qui reste? Eh ben, le poil gratté.
Ouais.
Allez,
poil gratté.
Ouais.
C'est à toi.
Vous écoutez La Fabrique avec Ramzi Assadi et Juliette Arnaud
et François Audouin.
François Audouin. Épisode 6 avec la chanteur de nos cœurs.
La chanteur
Yedré.
Mais peut-être que je suis non-binaire. Qu'est-ce que tu en sais?
La chanteur de nos cœurs.
Mais peut-être.
Ouais, mais c'était pour la rime.
Et peut-être. T'acceptes d'être nommée la chanteur non-binaire?
C'est votre langue,
la chanteur de nos cœurs.
La chanteur non-binaire.
La rime est belle. La rime est belle.
Voilà, ça commence fort. Oui, bah, je suis la chanteur de vos cœurs.
Allez, ça va.
Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création. Qu'il oublie toujours de dire François, mais bon, fait que 6 fois qu'il démarre l'émission. Donc
ouais,
c'est
mais
pas...
je sais que tu le dis après.
Avec Juliette Arnaud, bonjour Juliette.
Et bonjour
François Audouin,
salut.
Auteur, réalisateur. Je sais, je suis trop emmerdé Juliette, que je le répète. Et Juliette Arnaud, comédienne, réalisatrice.
Ouais, t'as
que ça. Si, faut le dire.
Bah, si. Autrice et chroniqueuse sur France Inter. Et aujourd'hui, notre invité, Yedré, bonjour.
Bonjour Yedré.
Et bonjour à tous.
Ça va?
Ça va très bien, surtout depuis que je suis un chanteur au grand cœur. Ça va encore mieux, voilà.
Tu es la chanteur de nos cœurs.
Exactement.
La, ah oui, c'est
la chanteur.
La chanteure. Ouais. C'est comme l'auteure. Mmh. Voilà.
Tu peux couper le générique, Ramzi.
Je sais pas faire.
Appuie sur le même bouton.
En même temps,
non,
ça
je
met...
je crois que ça le relance.
Eh ben, coupe le... Voilà. Hop.
Ah oui,
ça va se finir.
Ça donnait un petit côté film porno. Donc, tu sais, quand nous qui parlons dessus, c'était très smooth.
Juste avant de se déshabiller.
Et voilà.
Et de pratiquer une sodomie végétalisée.
Ok.
Alors, par contre, c'était pas du tout venu pour
non,
ça.
Pas, non, mais moi non plus. C'était pas ce qui était prévu.
C'est bon, à Rome, on fait comme les Romains. Hein, donc, voilà. On enlève les chaussures.
Mais, bien sûr.
Première règle. Deuxième règle. On tombe la culotte.
Bon, voilà. Ramzi reprend le contrôle de ce podcast.
Guédré, François, peut-être Juliette, est-ce que quelqu'un peut présenter Guédré à ceux qui ne la connaissent pas
Pas François, s'il vous plaît, parce qu'il dit n'importe quoi.
Juliette
Alors, outre que Guédré est la chanteur de nos cœurs,
bien sûr,
Guédré est auteur.
Humoriste.
Oui, mais autrice-compositrice, humoriste.
T'es plus quoi, chanteuse ou humoriste? C'est quoi le...
Bah, franchement, ni l'un ni l'autre. Chanteuse, j'arrive jamais à dire ça parce que pour moi, chanteuse, ça a toujours été j'allais dire Lara Fabian, c'est moins glorieux. Mais ouais, pour moi, il y a un côté un peu comme ça que je ne m'octroie pas du tout. Et humoriste, j'assume pas non plus. Du coup, je dis que j'écris des chansons. C'est vrai, que je chante, c'est vrai aussi, c'est factuel, et que bah, souvent j'essaye qu'elles soient drôles. Voilà.
D'accord.
Donc,
mais quand tu les écris, tu sais pour qu'elles soient drôles. C'est pour faire rire, c'est pas.
Oui, alors.
Non.
C'est pour que. Oui. En fait, c'est plus pour
parler
de... Au
départ, elle veut écrire une chanson et elle se dit « je vais faire une chanson émouvante ».
Oui, c'est ça. Et à chaque fois, ça ne marche pas parce que je dis « bite ». Non, non, c'est pas forcément pour qu'elle soit... C'est plus parce que j'ai envie de parler d'un truc et que le moyen qui, pour moi, est le plus simple d'en parler, c'est que ce soit un peu rigolo.
Ouais.
Et en musique.
Et en musique, oui. Ouais, toujours en musique.
Et comment tu les composes? Je vais inverser juste le processus aujourd'hui. On va parler d'abord de la composition et ensuite du parcours. J'aime bien innover. Comment tu les composes, ces chansons? C'est quoi? Ça part d'une thématique, d'un truc qui te révolte ou qui te chagrine ou autre? Et tu as envie d'en parler ou...
En fait, c'est par exemple pour les chansons que je fais... dans l'émission, c'est très différent de ce que j'écris
pour le spectacle.
On va dire moi ou pour mes disques ou quoi. Parce que pour les chansons que j'écris, on va dire pour moi et pour les chanter sur scène, ça peut être très très différent. Ça peut être une phrase par exemple où je me dis ah, ce serait super pour un refrain ou une idée de parfois un thème, mais parfois juste une histoire que je peux imaginer et donc la tourner en chanson. Pour l'émission, ça va vraiment être plus des thèmes. Mais c'est pas vraiment la même façon.
La même mécanique sur les deux.
Mais ça peut aussi partir juste d'une phrase que je trouve chouette, par exemple, je trouve bien résonner sur un refrain, quoi. Ou une phrase que je trouverais chouette comme ouverture de chanson.
D'accord. Pour ensuite dérouler l'écriture.
C'est ça, je déroule. Ce serait bien si c'était si simple. Mais, je dis ça parce que c'est vrai que quand je commence à écrire une chanson, en fait, je peux pas... il faut que je la finisse, en fait. Je laisse jamais une chanson en plan que je reprends trois jours après.
Ah bon?
Non, c'est pas possible.
T'écris d'une traite?
Parfois, je me laisse... Je me laisse s'il est vraiment très tard ou que j'ai plus le temps ou quoi. Je me laisse aller un couplet, mais jamais plus. Parce que, je sais pas, ça doit être dans la lancée, quoi.
L'énergie, le flow du truc.
C'est ça. Je me dis, alors parfois ça peut durer vraiment très, 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 très longtemps. Hein. J'aimerais bien que ce soit à chaque fois en une heure.
Très, très, très longtemps.
Enfin, très, très, très longtemps. Quand j'écris, on va dire, je sais pas quand est-ce que ça commence. Est-ce que c'est quand je m'assieds et que je suis avec mon instrument et mon papier et que je commence à écrire, ou est-ce que ça va être tous les jours précédents, où en fait je fais des trucs, mais je fais que penser à cette chanson, et que quand j'y ai suffisamment pensé, là, ok, je m'assieds et j'écris. Alors bon, quand est-ce que ça commence l'écriture, je sais pas.
Disons le moment où tu t'assois et tu commences à écrire. Là, tu dis avec ton instrument, donc t'écris toujours au piano ou à la guitare
Simultanément, ouais. Ouais, toujours simultanément. Parce que j'ai besoin de... Parce que déjà, sinon, en fait, j'ai l'impression d'écrire de la poésie. Et parce que bah, comme c'est des trucs qui riment forcément, ouais, et que ça donne pas le même effet, et que j'ai besoin de bah, que l'un et l'autre s'emportent un peu mutuellement, quoi, parce que parfois c'est vrai, l'autre jour, enfin c'est drôle, la grand-mère d'une amie a trouvé un disque à moi chez elle, et elle a juste lu les textes. Elle disait, oh là là, mais c'est tellement triste, tu vois ce qu'elle raconte et tout. Et c'est vrai que si tu, parfois, sur certaines chansons, si tu prends juste le texte, tu te dis, oh là là, c'est vrai que c'est vraiment hyper déprimant.
Et c'est comme pour tu ça fais que, la musique en même temps, voilà, ça permet ça, de compenser.
Et voilà, ça permet d'amener ça vers un truc. Et oui. Non, mais c'est vrai, ça permet d'amener justement tout ce que peut amener la musique.
D'accord, donc tu disais, tu te poses avec ton instrument, avec ton papier, ton crayon.
Ouais.
Tu ne fais pas l'ordinateur.
Non.
Et donc, tu disais, le plus long, c'est quoi par exemple, quand tu galères un peu sur une chanson, sans non plus reporter au lendemain ou autre,
bah,
ça peut être quoi, 3 heures, 4
heures ?
Ah
non, non, ça peut être... non, non, c'est plus. Hein. parfois, je vais passer... Enfin, tu vois, je fais des petites pauses ou... où je vais m'aérer un peu, mais en continuant à y penser, etc. Mais je peux passer, je sais pas, 8 heures, quoi.
Ah ouais, d'accord. Une journée, quoi.
Vraiment, vraiment la journée. Et puis parfois, j'ai pas fini. Mais idéalement, j'aime me lever que quand c'est terminé, parce que je sais pas le lendemain comment je serai. Tu vois, est-ce que j'aurai encore envie...
Te lever quand c'est terminé ?
Me lever de ma chaise, oui, parce que j'écris allongé en regardant le ciel.
J'ai besoin. Les yeux sur le lointain.
Oui,
non,
j'ai besoin.
Nous les femmes,
oui, nous
les femmes. C'est comme ça qu'on procède,
parce qu'on est calé avec la lune.
Mais c'est ça qui est magique.
On a besoin de savoir où qu'elle est pour savoir où qu'on en est.
Voilà, c'est ça.
J'avais compris, je pensais que tu voulais dire me coucher.
Me lever de ma chaise, en tout cas. Parce que le lendemain... je sais pas, peut-être j'aurais pas envie de écrire une chose, quoi.
Et puis il y a un petit truc superstitieux aussi, c'est que tu te dis que c'est un flux, et que si jamais tu te dis, bon ben on continuera demain, tu prends le risque que le flux, ben il n'y en ait plus en
Exactement.
Fait.
Exactement.
Et je crois que malheureusement, tous les gens qui écrivent, ils ont cette superstition cheville au corps.
Ah ouais, c'est... Non, sans doute.
C'est clair.
Et que t'as une angoisse terrible de te dire, ouais, ça s'arrête. Donc non, tant que ça vient, quoi, restons. Enfin...
Toi, t'es comme ça, François ?
Ben, c'est vrai que ce que j'ai du mal à... Il y a beaucoup de
choses... Toi, t'écris le matin, par exemple.
Ouais, j'écris le matin, mais par exemple, ça dépend ce que je fais ou ce que j'écris entre, par exemple, 20 secondes et quelque chose, là, je suis sur un scénario en même temps.
Le 20 secondes, c'est le petit sketch au début de C'est encore nous,
voilà,
dans l'émission.
Et là, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que tant que c'est pas fait, j'arrive même pas, moi, à faire, à préparer l'émission en ce moment, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai pas fait un premier jet, j'arrive pas à me mettre sur le...
Sur le reste,
et parce que je vais avoir ça dans la tête qui va me prendre la tête. Donc j'essaie de l'écrire le plus vite possible, quitte à revenir après dessus. Mais le matin aussi, mais sur un scénario, tu peux pas écrire un scénario en une journée. Donc, j'ai du mal, c'est un truc justement qui est problématique pour moi parce que c'est pareil. J'ai le flow, et au fur et à mesure que j'avance, et dans les jours qui avancent, j'ai l'impression bizarrement qui disparaît, tu vois.
Comment ? Pardon ?
Non, que le flow disparaisse au fur et à mesure des jours.
Et tu vois des inégalités, du coup, dans ce que tu as écrit à un moment avec ce que tu as écrit après ? Parce qu'en fait,
c'est
ça la crainte.
Si j'ai pas pu écrire pendant 2 jours de suite, je sais qu'après, ça va être très dur. Et c'est souvent pas bon. Il faut retrouver un peu ce flow. Donc, il va falloir passer 2-3 jours à écrire des trucs un peu nuls. Enfin, en tout cas, j'estime nul, quoi.
Je trouve qu'il y a un truc qui est ultra bêtasson et technique qui est... moi, si j'ai pas mon angoisse absolue, en fait, en termes d'écriture, c'est que je ne vais plus jamais arriver à savoir écrire une phrase que je trouve bien gaulée. Et si j'ai pas cette première phrase bien gaulée, moi, je ne sais pas écrire à la suite. Ouais. C'est-à-dire, je peux pas me dire, bon, la phrase, elle est boiteuse, mais c'est pas grave, je vais la réparer plus tard. Ah non.
C'est un blocage total ?
Ah, mais absolument.
Là, tu parles quand t'écris des chroniques ou quand t'écris des romans ?
Pour moi.
Quand t'écris des romans,
moi, est-ce que si j'ai... Ça n'est pas possible. Il faut que cette phrase, elle soit... phrase qui peut m'apparaître extrêmement mal gaulée 2 mois plus tard en me relisant. Ça n'est pas le sujet.
Ouais, non, mais c'est ton état, ton ressenti.
Oui, il faut que là, au moment où j'y suis, il faut que ça sonne... que je l'entende sonner, enfin, moi j'ai l'impression que c'est quasiment comme de la musique, si ça sonne pas juste, je ne passe pas le cap, je m'obstine comme une chèvre et à me rendre super malheureuse, quoi.
Ouais, parce que ça va te donner, c'est comme ça te donner l'inspiration de la suite, quoi.
Ou la que je déclenche. C'est comme si je savais, enfin, que la phrase, cette première phrase, c'était un code qui allait ouvrir le robinet. N'importe quoi.
Mais
c'est superstitieux, en fait. C'est une. Je sais pas si c'est superstitieux ou une croyance.
Mais je sais pas si c'est simplement une superstition, parce que si tu as trouvé cette phrase-là dont tu es contente, en fait, ça te donne également la confiance de continuer. Si tu commences ton texte, que ce soit un scénario, un livre, n'importe quoi, avec un truc où t'es pas hyper fier de toi, comment être sûr, autant qu'on soit sûr jamais de ce qu'on écrit, mais de la capacité que tu auras à écrire la suite, quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais, non, t'as raison.
Et puis ça donne aussi, tu vois, ça me fait penser à l'élan aussi que tu as. C'est-à-dire que c'est comme tu sautes un peu dans le vide quand t'écris, enfin, en disant tu vas découvrir un peu un sujet que t'as envie de traiter. Et que c'est vrai que si tu n'as pas cette première phrase ou ce premier concept ou cette première idée hyper forte, bah tu n'as pas l'élan pour te dire « Ok, pendant des jours, je vais écrire. » Et ça t'inspire. Et
bon, c'est une béquille, en fait.
Béquille, c'est un truc qui est fort et qui t'as l'impression que c'est vraiment personnel et sur lequel tu dis « Ok, ça, c'est moi. » Et ça, je suis légitime pour dire ça. Et en fait, ça m'inspire et je vais raconter la suite.
Je pense que plus qu'une béquille, c'est au contraire une base solide, en fait.
Sur laquelle tu t'appuies pour la suite, pour te dire au moins, bon, il y a ça qui est.
Oui, mais c'est une fondation. Et tu sais que du coup, t'es sur un truc stable.
D'accord.
Si t'es une béquille, t'as
l'impression. Oui, c'est bien essentiel. C'est pour ça que quand t'as employé le mot confiance, en fait, c'est exactement ça. C'est le petit moment que tu t'accordes pour avoir confiance en toi. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai trouvé une phrase que je trouve jolie, que je trouve bien sonnante, qui me va, elle me donne elle me dit, meuf, si t'es capable d'écrire cette phrase, les autres, elles vont pouvoir être...
Ça veut dire, si un éditeur te commande un livre...
Mais personne ne me commande un livre. Ça va pas la tête.
Il n'y a pas un éditeur qui te dit, tiens, j'aimerais bien te publier ton prochain roman.
Oui, mais ça, c'est pas pareil.
Voilà. Donc,
mais si je suis pas dans un moment où j'écris, j'ai rien. Je lui dis non.
Tu peux pas déclencher ce truc-là de cette première phrase.
Non, je peux pas déclencher.
Putain, j'ai mis 8 heures.
Que tu voulais dire. Qu'est-ce qui déclenche ? Eh ben moi non plus, je sais pas qu'est-ce qui déclenche. Si je sais. Moi par exemple, mon dernier livre, je sais très bien. C'est une chanson de Julien Clerc dont j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle m'obsédait. Les paroles, la musique et les paroles. J'étais obsédée. Je faisais des recherches sur la chanson. Je comprenais pas. Et tout à coup. La chanson m'a inspiré le roman. C'est-à-dire, c'est cette chanson, j'avais des éléments épars qui ne faisaient pas un roman. Et la chanson de Julien Clerc, enfin, les paroles écrites par Rod Agile, ont créé le lien entre les pièces du puzzle. Et d'accord, une fois que j'ai eu cette chanson, je me le suis mis dans les oreilles, j'ai ouvert mon ordinateur et je suis rentrée dans le premier paragraphe.
Mais tu ne te mets jamais dans des conditions pour te dire « Ah tiens, je vais essayer d'avoir cette première phrase. »
C'est ce que disait Guédré quand elle te disait « L'écriture, c'est à partir de quel moment ? À partir du moment où je m'assois avec mon instrument et mon papier et mon crayon ? Ou est-ce que c'est le moment où je suis en train de ruminer à peu près constamment quoi que je fasse en pensant à ça ?» Et moi, je crois que la vraie écriture, c'est ça. Que s'il n'y a pas cette étape avant, il n'y a pas d'écriture.
Mais Guédré a des contraintes. Par exemple, une chronique toutes les deux semaines. Donc, il faut bien un moment se retrouver face à ça.
Ah oui, oui. Mais tu ne peux pas économiser le temps où tu as d'abord ruminé. C'est pas vrai. Il ne s'économise pas ce temps-là. Et c'est pour ça que les gens qui pondent un livre par an, je suis désolée, mais je ne vois pas comment c'est techniquement possible. Si tu n'as pas de moment où tu es en train de mâchonner ta propre vie et ce que tu comprends des autres et ce que tu comprends d'air du temps et tout, je ne vois pas ce que tu as à raconter.
Mais par exemple, moi, mes chansons que j'écris pour l'émission... je commence en général, bon, c'est pas très intéressant, mais j'écris le lundi.
C'est justement
l'objet du podcast.
Donc l'émission est mercredi, donc j'écris le lundi parce que j'ai besoin de me dire qu'au cas où il y a le mardi, mais sauf que je commence à y penser, on va dire, le vendredi. Mais parce que pour moi, c'est très, très inédit d'écrire des chansons parce qu'il faut écrire une chanson.
Voilà.
En fait, ça, c'est antinaturel au possible. Vraiment. Parce que, tu sais, il y a toujours un peu ce truc qui est un peu insupportable, tu vois, quand t'écoutes les auteurs de chansons et les interprètes, ils disent ouais, donc là, je suis partie en retraite pendant trois mois et j'ai composé mon album. Bon, moi, ça, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est bon, calme-toi. T'as juste écrit des chansons qui, en plus, souvent, c'est nul, tu vois. Enfin, pas pour dire que les miennes sont bien, mais enfin, on va se calmer, tu vois. Il n'y a pas besoin.
Ouais, ouais,
bon, peut-être que.
On est d'accord.
Ça t'aide, mais bon, faut arrêter, quoi. Et. Mais en fait, une chanson, en général, je sais pas, je connais pas... Sauf si tu es parolier pour quelqu'un où bah, c'est un peu ton job, quoi, tu vois, et tu fais un peu des chansons au kilomètre parce que, voilà, t'as une facilité, bon, j'en sais rien. Mais sinon, en fait, t'écris une chanson quand ça te vient, tu vois.
D'accord.
T'écris pas une chanson parce qu'il faut écrire une chanson parce que, parce que bah, mercredi prochain, on en attend une de
exemple,
toi. Quoi.
Toi, tu fais des spectacles, donc à un moment.
Bah oui, mais tu sais, tu
sens. À un moment, t'as envie de faire un nouveau spectacle.
Oui, mais j'ai envie. J'ai envie, donc c'est moi qui décide de dire bah voilà. Oui, bah, après, moi, j'ai jamais pris beaucoup de temps entre deux journées.
Tu décides de lancer un nouveau spectacle. Mais tu n'as pas forcément toutes les chansons tout de suite.
Bah, je sors d'abord un album. Tu sais, c'est très codifié, on va dire. Même si moi, je ne suis pas trop, trop dans ces codes-là parce que c'est un peu plus hybride, tu vois. C'est moins calibré.
Mais donc, mais tu décides de sortir ce nouvel album. Donc, il y a une deadline à un moment. Il faut
faire
ces chansons.
Non, parce que moi, je suis en autoproduction. Je n'ai jamais voulu signer avec une maison de disques. Donc, je sors les disques quand je veux, comme je veux.
Quand tu as suffisamment de matière que tu décides de sortir un
disque. Ah oui, c'est vraiment déjà quand j'ai écrit mes chansons, quand je les ai enregistrées.
Parce que c'est un peu la question sur la maison d'édition, par rapport aux maisons de disques, où là, tu as la contrainte de la maison de disques qui dit qu'il faut que tu me le livres à telle date. Là, toi, comme tu es en autoproduction.
Oui, moi, je suis en autoproduction. Donc, je décide de... Là, OK, donc là, pendant toute l'année, bah, j'ai écrit plein de chansons, donc je vais regarder un peu celles qui valent le coup, qui valent pas le coup. Ah, OK, bon, bah, j'en ai 12. C'est le chiffre, comme les œufs, quoi. Enfin, voilà, c'est bien, ça fait un disque. Donc, on les enregistre. Une fois qu'il est enregistré, bah, on se dit combien de temps il faut pour le fabriquer, machin. Bon, puis on décide, tout simplement. Mais ces chansons, je les ai toutes écrites parce que c'est un peu
l'inspiration divine.
Ça m'est venu, quoi, tu vois. Ouais. Juste, je me suis dit, oh, tiens, j'ai envie d'écrire une chanson sur ça, et j'ai écrit. Mais ce truc d'écrire... qu'on attend de toi que bah c'est je trouve pas ça hyper naturel, mais je trouve ça hyper intéressant.
Comme
et bien en fait, ouais, je trouve ça hyper bien parce que à vrai dire, moi j'ai un peu hésité à accepter parce que j'avais peur que qu'on ait l'impression que du coup écrire une chanson c'est super facile, tu vois. Un peu genre, bah, du coup, t'en fais comme ça, du coup, bah quoi. Bon, alors, déjà, en plus, bon, moi, souvent, c'est un truc qu'on me dit, tu vois, genre, bon, toi, t'es là, prout, prout, pipi, bah voilà, t'as tourné, tu vois. Bon.
C'est plus compliqué que ça.
Bon,
hein.
Bon, y a peut-être des gens qui le pensent, et sans doute pour quelque chose, mais bon, c'est vrai que j'ai souvent dû un peu essayer de prouver que, bah. Peu différent, que parfois il y a plusieurs deux, bon bref, et du coup je me disais, mais si du coup je fais des chansons comme ça régulièrement, ça veut dire que c'est hyper facile et que des chansons tu peux en produire comme ça. Bon, je suis revenue de cette crainte là et en fait je trouve l'exercice super parce que aussi ça désacralise un peu ce dont j'avais peur, que ça désacralise le fait d'écrire une chanson. En fait je trouve ça bien au final, que ça désacralise.
Pourquoi ?
Le côté, je pars au Népal, tu vois, réfléchir au monde, etc., pour finalement sortir un album chez Sony. Enfin, bon, ce côté, c'est un peu trop, quoi. Il faut qu'il reste du sacré, bien sûr, mais c'est pas non plus, tu vois.
Mais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'était pas la difficulté de l'exercice que t'appréhendais, c'était plutôt comment l'exercice était perçu par le monde extérieur, en disant, ouais, en fait, c'est facile ce qu'elle fait. T'avais plus peur de l'image que ça pouvait renvoyer que de l'exercice en lui-même, parce que c'est une contrainte forte, écrire une chanson, toi-même, tu
vois. Bah oui, mais au début, moi, je ne l'avais pas fait, donc je me disais, c'est faisable. Tu vois, au début, quand tu ne le fais pas, je...
Ouais, bah, tu l'avais déjà fait dans la matinale, quand même, sur France Inter, je me souviens, tu avais fait une ou deux matinales,
oui,
non ?
Une ou deux, mais si
c'est
comme
pas,
ça,
c'est pas tous les 15 jours.
C'est ponctuel.
Non, mais justement, c'est l'inverse, quand tu n'as pas fait, tu ne dis pas que c'est vertigineux comme truc ? D'écrire.
Non, elle est inconsciente. Voilà.
Ouais, non, je me disais. Bah, oui, bah, non, mais je me disais. Bah, que Non, non, j'avais pas conscience. Enfin, non, non, j'avais pas conscience. Et en plus, ouais, parce que bah, il y a, comment dire, il y a cette forme, tu vois, respectée, mais que j'aime, hein, j'adore hein, cette forme-là. Mais voilà, donc il y a une mélodie, il mmh. y a trois couplets de refrain. Enfin, tu vois, c'est très, tout ça est très, ouais. très formaté. Et en plus, moi, je suis pas une musicienne de grand talent parce que je suis trop flémarde pour le devenir. Donc, tu vois, il faut que je me dépatouille avec ce que je sais faire pour que... Mais, tu sais, parfois, j'écris des trucs et je me dis... Que ça ressemble quand même, et je réécoute des chansons que j'avais écrites, je sais pas, la saison dernière et tout. Je fais ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Allez, je peux,
mais
je peux.
Tu sais que moi ça me fait les mêmes angoisses avec les chroniques,
c'est vrai,
mais bien sûr.
Ah ouais.
À partir du moment où tu fais une chose qui est répétitive, comment ouais. ne pas se dire, mais attends, j'ai pas déjà écrit ce truc, j'ai
bah,
pas
on fait ouais. tout ça, on fait tout
c'est
ça,
normal,
même, sur,
enfin,
même ouais. sur les blagues, même ouais. sur le journal,
ouais.
on utilise.
Ah bah sur le journal, moi je me rends compte que c'est toujours la même blague par contre.
Ouais, non mais il y a ouais, le fait une fois, j'avais compilé les blagues sur Patrick Bruel où on avait fait sur une saison, on avait fait 15 la même, quasiment la même blague dès qu'il y avait,
dans la
dès
même
qu'il y avait
blague.
Un homme nu dans la rue, ah tiens, on a des nouvelles de Patrick Bruel, on l'avait fait 15
voire
fois
même
dans
dès
dans
qu'il y avait un homme.
Non mais c'est vrai, mais c'est, oui, dans tous les trucs, c'est, on utilise un peu les mêmes mécaniques et les mêmes,
mais c'est,
les mêmes
mais,
éléments.
Et le savoir, c'est angoissant. Moi, par moment, oui, je me pose la question. Je me dis, mais attends, voir. J'ai pas déjà formulé ça précisément, mais genre de la même manière.
Toi, t'as l'avantage que personne ne t'écoute.
Et si j'avais, voilà, c'est ça. Et si j'avais un logiciel, si je pouvais mettre au point un logiciel, tu sais, qui avec des mots clés.
Oui.
Mais j'adorerais faire ça pour mes chroniques parce que je suis sûre que je comprendrais des tas de trucs sur.
Quand t'as un logiciel avec des mots clés qui analyse ton
oui,
texte.
Ouais. Genre ChatGPT qui analyserait quels sont les mots qui reviennent le plus souvent, les thèmes, enfin les manières de la syntaxe et ah, tout. C'est... Et je suis sûre que ça doit être que je refais toujours en gros à peu près la même chose.
Mais le truc c'est de je trouve que se poser cette question là en disant est-ce que finalement je suis pas un escroc ou est-ce que le fait
on
de la
ça,
série.
Non,
non,
ah,
non.
Si, si.
Non, mais bon, si, non. J'entends ce que.
Bon,
en creux, c'est un peu ça.
François le pense.
Non, non, pas du
bon,
tout.
Bah.
Juste... non. Non, justement, pas du tout. C'est qu'il faut, aussi se rendre compte que la forme sérielle, parce que la chronique, toi, tu viens toutes les deux semaines en moyenne. Toi, tu fais des chroniques toutes les semaines. Tu as des questionnaires. En fait, il y a forcément des formes de récurrence dans le mode sériel, et c'est ce qui fait aussi le style de Juliette. Il y a des tourneurs de phrases, tu te dis j'ai peut-être fait la même chose, mais en fait t'as des tourneurs de phrases qui t'appartiennent, où tu les, au fait elles te représentent, elles sont ton identité.
Oui.
Donc en fait c'est normal,
c'est,
en fait
c'est aussi
que,
ouais,
et c'est
aussi
toi c'est pareil, t'as certaines
oui.
mélodies, en fait c'est ta signature
mais bien sûr,
musicale.
C'est aussi ce qu'on
oui.
attend de
oui.
la personne.
Exactement.
Ouais.
Oui, puis au bout d'un moment quelque part c'est un peu aussi rassurant parce que ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence, tu vois, enfin comment dire, si bon j'en suis absolument incapable, mais si un jour je faisais du blues la semaine d'après,
ah ouais, la
tu
prochaine
vois,
tu fais du
slam,
blues.
Tu vois, enfin bon, j'en suis pas capable, mais
ce serait un peu marrant quand même.
Ouais, mais
ça surprendrait.
Oui, ce serait surprenant une fois comme
ouais,
ça.
Ouais.
Mais bon, en fait, c'est normal, effectivement, comme tu dis, qu'on est chacun. Mais
parce qu'il y a des codes attendus.
Oui, puis c'est une identité, puis c'est aussi ce qui fait que. Ça veut dire que bah, ce qu'on raconte, c'est un petit peu sincère quand même. Parce
oui,
que...
et puis c'est aussi pour ouais. ça que les gens aiment vous écouter. Ils vont écouter une chronique de Juliette parce qu'il va y avoir bisous, merci. J'en ai dit trop.
T'as pas la forme exacte.
Ah putain, je me suis trompé. Bisous, merci. Voilà. Mais en fait, et les gens apprécient ces petits tics, ces petits trucs. C'est là-dessus qu'ils se raccrochent parce qu'en fait, c'est... Ça les rassure eux-mêmes, en fait.
Et ben, ce qu'on a inventé avec Lacustre la voilà. semaine dernière et qui va rester, je sais pas
non,
pourquoi, j'ai l'impression que c'est...
Il y a un mois et demi, mais... Ouais.
Ah oui.
Ouais, c'était il y a un mois et demi.
Oui, par rapport à la publication.
Voilà. Mais ça reste... Et c'est aussi comme ça que tu fabriques une ambiance de groupe, d'équipe,
de
où il
ouais.
y a une chose comme ça qui revient...
Et juste pour revenir sur, justement, la différence entre la chronique et tes spectacles, où tu dis, effectivement, que... tu avais peur de désacraliser la chanson chronique par rapport au spectacle ou au disque. Est-ce que quand même, au fond, tu te dis, quand tu regardes ce que tu fais, est-ce qu'il y a, pas forcément dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, mais te dire que ce qui te permet d'écrire de façon à la commande en fait sur les chroniques en disant ok sur la qualité je vais pas me dire ça va pas être dans un album, va pas y avoir une cohérence, je vais moins me réfléchir à des petits détails de la chanson, c'est la chronique, c'est pas grave, il faut arriver à une qualité à peu près standard en disant ok là c'est une bonne chronique, c'est une bonne chanson, je peux la faire en chronique sans te dire il faut que je sorte dans un album, tu vois ce que je veux dire, comme
ouais,
si
je vois,
elle était un
fait.
Petit peu en dessous pour un peu aussi désacraliser et toi te désangoisser d'écrire régulièrement.
Non pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs j'en parlais la dernière fois à Pierre-Emmanuel où je disais enfin, qui du coup, lui, donc Pierre-Emmanuel Barré, qui a fait lui beaucoup de chroniques. Et je disais, ah, bah, cette chanson-là, elle était moins bien, etc. Et donc, lui qui a l'expérience et qui écrit également pour d'autres gens, qui m'a dit, mais en fait, tu peux pas faire, je sais pas si tu vas 20 fois ou 30 fois dans une émission à l'année, tu peux pas faire 30 bonnes chroniques. Je veux dire, si sur une année, tu en as 5 super, 8 cool, tu vois, d'autres marrantes, en fait c'est normal. Et bon, moi j'ai beaucoup moins d'expérience que Juliette, enfin que vous tous bien sûr, tu vois, t'as toujours ce truc de, enfin non mais de la chronique, enfin d'une venue en émission, etc., d'un truc surtout que tu fais furtivement. Bon, ça m'a un peu apaisé, mais non, j'ai pas du tout ce truc là
parce que c'est ce que disait aussi Vizorek à Morgane Cadignan, quand elle a commencé à faire une chronique hebdomadaire, alors qu'elle n'avait jamais fait de chronique de sa vie, il disait sur 5, t'en fais une très bonne, 3 moyennes et une mauvaise, bah t'as réussi ta semaine, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment, t'as pas besoin de faire, d'être dans l'excellence en permanence non plus. Tu n'auras jamais de.
Mais après.
Tu n'auras pas à faire 30 exceptionnels, 30 chansons exceptionnelles à l'année, quoi.
Non, c'est pas possible. Si t'en fais déjà 20 super, super sur toute ta vie, c'est cool. Ouais. Mais après, non, j'ai pas du tout ce truc-là parce que, en fait, pour moi, une chanson, c'est. Je sais pas, c'est assez particulier. C'est un truc qui reste, quoi. Tu vois. Enfin, c'est le seul art que les gens. Peuvent vraiment s'approprier. Enfin, comment dire, tu peux être fan de cinéma comme Thomas Croisière. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'avec ses amis, en chœur, tu vois, ils se refassent des tirades de films qu'ils ont adorés. Ça n'existe pas,
non,
tu vois.
Si.
Alors, bon, peut-être parce que.
Edouard, moi, je l'ai fait avec Edouard.
Thomas Croisière.
Thomas Croisière.
Oui.
Jamais.
Bon, mais c'est plus rare.
Mais c'est plus rare. Non, mais évidemment.
Entre cinéphiles.
Non, mais la chanson.
Entre,
oui, voilà, c'est ça.
Tu vois, t'as beau être fan d'un peintre, tu vas pas, tu vois, gribouiller.
Il oui, y a pas de, il y a pas de karaoké, de peinture.
Non.
Ou de cinéma,
y a,
non. Et j'allais te dire, en fait, les seuls films qui fabriquent ça, il y a même.
C'est les comédies musicales.
Ouais.
Ah bah il y a le truc de Rocky Horror Show, Picture Show. Oui, mais il y a des gens qui se retrouvent dans les cinémas pour faire tout le film.
Mais moi, quand j'étais jeune fille avec mes copines étudiantes, on se faisait des soirées Jacques Demy.
Ouais.
Où on chantait à tue-tête.
Oui, donc c'est la chanson qui a.
Oui, et donc en fait, tu as raison, Yedri, il n'y a que la chanson qui fait cet effet-là.
Oui, mais en fait, c'est ça. Et donc, en fait, moi, quand j'écris une chanson, alors, tu as quand même conscience de ça, en fait. Tu te dis que. Parce que c'est. Enfin, tu mets
mais c'est une aide ou c'est au contraire, c'est un poids
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que qu'en fait, tu sais que c'est un objet, c'est une création que les gens, après, peuvent avoir dans leur vie, tu vois. Et ils peuvent chanter sous la douche, ils peuvent, tu vois, la chanter en chœur avec leurs potes. Je crois que c'est le seul truc avec lequel tu puisses le faire. Donc, quand tu écris une chanson, parce que... Mais c'est traître,
mais
tu vois.
C'est quelque chose
parce qu'il y a la mélodie, et ça, c'est horrible. Est-ce qu'on recherche...
C'est quelque chose que tu recherches, que ça reste en tête?
Bah... Un peu, forcément. Enfin, c'est-à-dire, quand tu crées une mélodie, tu essayes de faire une mélodie facile à...
Ouais.
Oui, qui reste un peu en tête. Ouais, un peu entêtante, voilà. Un peu... j'allais dire efficace, c'est pas, peut-être pas le bon mot, mais...
C'est une version de droite.
Ah oui, c'est la version de droite. Non, mais un truc, voilà, facile à comprendre, si tu veux rechanter, un truc populaire, en fait,
ouais.
Tout simplement. Un truc, c'est simple, voilà, la mélodie, je comprends, c'est c'est facile à chanter, je peux le rechanter, je l'écoute trois fois, enfin, tu vois, ça dépend de la musique que tu fais, bien sûr.
Mais... Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, je suis pas une grande musicienne. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours, comment t'en es venu à faire
Il faut le faire, faut découper. C'est quoi ta formation de musicienne? C'est quoi ton rapport à la musique,
ouais,
à l'apprentissage
ouais,
de la musique?
Ta formation musique, ouais, d'accord.
Bah vraiment.
Ouais, parce que sinon on va repartir au CP.
Non, on peut y aller. Non, parce que ça ne sera pas très long. Ce sera vraiment assez court. C'est très classique. J'ai fait du piano quand j'étais petite parce que tu sais, comme tous les enfants des parents qui n'ont pas pu faire des trucs. Tu sais, tu fais tous les trucs que tes parents...
Une compensation.
Voilà.
Tes parents auraient aimé prendre des cours de piano.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, ma mère aurait bien aimé. Donc, j'ai fait du piano, au parcours très classique, solfège, conservatoire, tout ça. Après, j'ai eu 14 ans et je voulais être cool. Et je mettais des posters de Kurt Cobain dans ma chambre. Et c'était pas très piano compatible.
Non.
Du coup, je me suis dit, je vais apprendre la guitare.
Logique.
Et après...
là, il y a deux options. C'est où tu te dis, je vais coucher avec des rockers,
ou tu
prends une guitare. Donc, toi, t'étais la catégorie.
Ouais, moi, j'ai. Ouais.
Je prends une guitare.
J'ai pris une guitare.
On peut pas faire les deux.
Juliette a fait l'autre.
Là, c'est également une voix possible.
C'est pas faux. J'ai pas compris l'enseignement de la même manière.
Et après, j'ai trouvé un prof qui, en fait, m'a appris dès la première leçon à jouer une chanson des Beatles.
Laquelle?
Je crois que c'était Let It Be. Mm-hmm. Bon, de toute façon, en fait, t'en joues une, tu sais toutes les jouer. Hein. C'est vraiment un peu comme les miennes. Hein. C'est vraiment un peu...
C'est la marque des génies. Pardon.
Et voilà, c'est la marque des génies. Voilà, tout simplement, le mot est lâché.
Les Beatles, et Guy Edrey.
Et voilà.
D'accord. On ne fait pas un débat sur les génies?
Non.
Ok, d'accord, on continue.
Et donc, en fait, à la première leçon, je me suis dit, mais cet instrument est génialissime, car je ne suis pas très patiente, je ne suis pas quelqu'un qui va pousser les trucs jusqu'au bout, je me contente un peu de ce que j'ai, ce que je sais faire.
De quoi tu as besoin, en fait?
Voilà, je me contente de ce qu'il me...
Comme dans une chanson des Stones.
Laquelle?
You can't always get what you want, but sometimes you might find you get what you need.
Voilà.
Voilà, exactement.
C'est ça. Alors, ce que je...
C'est la seule chose vraiment intelligente que j'ai jamais écrite les Rolling Stones.
Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, cet instrument est génial parce que avec très peu d'efforts, on peut inventer une mélodie, jouer des chansons. En fait, à la base, je voulais juste jouer des chansons d'autres gens. Mais n'oublions pas que j'avais 14 ans. Donc, la vie, c'était trop nul. Et que franchement, c'était trop dur. Et le monde, il était pourri, quoi.
Ah, ok, là, il y a un album.
Ouais, c'était... voilà. Et donc, je me suis dit, mais attends, si je sais faire des accords, je comprends comment ça marche de faire une mélodie, je vais écrire des chansons. Et voilà. Donc, j'ai pris...
Très jeune, alors.
Ouais, mais alors, franchement, ce que j'écrivais, ça devait être horrible.
Mais peu importe, toi, tu l'as fait.
Mmh. Oui. Oui, je le faisais, mais bon, après, ça n'avait aucun but. Enfin, tu vois, c'était vraiment plus mélancolique, genre, dans ma chambre, tu vois.
Alors, c'était des premiers degrés, quoi.
Ouais, hyper.
C'était désespéré, c'était...
C'était très, très premier degré. Ouais, bien sûr, très premier degré.
Sur l'amour?
Sur l'amour. Après, donc, j'écrivais des chansons désespérées sur l'amour. Il y a une amie, il y a quelque temps, qui m'a envoyé des trucs qu'elle a retrouvés au fond d'un tiroir, de plein de textes. Et là, j'avais un peu oublié qu'en fait, j'emmenais ma guitare quand on n'allait pas beaucoup en cours. Et en fait, j'emmenais ma guitare et avec mes copines, j'écrivais des chansons marrantes, en fait. Et j'avais oublié. Mais déjà, super, genre à 15 ans, j'écrivais des chansons sur mes copines, sur nous, tu vois, des trucs...
Là, c'était plus désespéré, c'était rigolard.
C'était vraiment rigolard.
Mais parce que tu changeais de sujet? Parce que le désespoir, l'amour, mais là tu me dis des chansons sur tes copines.
Oui, bah c'était déjà des trucs pour dire que voilà, on était des ratés, qu'on ferait rien de notre vie, et que voilà, bon, tu vois, des trucs normal de quand t'as 15 ans, que tu vas pas en cours et qu'il y a pas trop de perspectives et voilà. Et donc en fait, c'est vrai que les chansons un peu marrantes, j'ai tendance à l'oublier, mais ça a été là dès le début, en fait. Mais c'est juste parce que j'ai découvert que la guitare était un instrument extrêmement accessible pour ouais. quelqu'un de flemmard.
Et puis c'est aussi un instrument populaire, mais pour oui. reprendre le même adjectif, ouais. Qui coûte pas une thune, un pognon de dingue,
tu peux l'emmener,
qui ouais. est suffisamment léger pour que mmh. tu puisses l'emmener. Et alors je sais pas si ça parce que nous quand on était adolescente, dès qu'il y avait un mec qui sortait une guitare ouais. dans une soirée, on était toutes instantanément amoureuses de lui.
Non, l'inverse n'est pas vrai.
On est d'accord.
Non, l'inverse n'est pas vrai parce
c'est pour
qu'en
ça
fait, quand
Janis
tu commences
Joplin
à jouer,
était très malheureuse.
Non, quand
que...
tu commences à jouer, en général, il y a un mec qui te dit attends, passe-moi sa guitare. Et
donc c'est en guitare planning.
Oui, il y a du guitare planning.
Ouais. Les accords.
Bien sûr.
Ah mais évidemment. Mais enfin.
Guédéry vient d'inventer un nouveau concept.
Bien sûr.
On aurait dû y penser.
En plus, c'est la première qui a dû casser les couilles en soirée parce que les mecs étaient là. À vouloir gratter, emballer les meufs, et elle est se pointer et jouer.
Des trucs pour rire.
Bah,
ouais,
alors qu'eux,
ils essayaient
de faire quoi,
nul.
Les Zeppelin ou...
Bah, bien, Stairway to Heaven.
Ah, putain
là, mais, évidemment.
Abattez les mecs qui font Stairway to Heaven en soirée.
Bien sûr.
Et alors, et après?
Et donc, voilà, donc j'écrivais ces chansons, et en fait, mais c'est drôle, parce que ça faisait tellement partie, en fait, de mon quotidien, que j'oublie en fait de raconter ça, parce que pour moi c'est comme si on disait alors raconte ton enfance et que tu disais et que tu devais dire que tous les jours tu te brossais les dents, en fait c'est tellement, enfin que tu penses même pas à le dire tellement c'est banal, en fait c'était banal dans ma vie d'écrire des chansons et du coup je raconte
continue, suite.
Et ensuite moi j'ai fait des études d'art dramatique. J'ai fait l'ENSAT à Lyon, qui était l'ancienne école de la rue Blanche.
Parce que tu voulais devenir comédienne ?
Parce que je voulais être comédienne, absolument.
D'accord.
Et
pourquoi tu voulais devenir comédienne ?
Pourquoi ? Bah parce que je crois que j'aimais beaucoup la scène, en fait, tout simplement.
T'en faisais déjà avant ?
J'en faisais, non, pas trop. Parce que je prenais un peu des cours de théâtre. Ouais, je faisais des cours de théâtre. Et puis,
au lycée ?
J'aimais, ouais.
D'accord.
Et puis on
t'as avec toujours été attirée par la scène.
Ouais, toujours avec une copine, on écrivait des petits trucs marrants, puis voilà, spectacle de fin d'année, tu vois, on faisait des petites scénettes.
D'accord. Pour...
Okay. Ouais, en fait, j'aimais juste beaucoup la scène, quoi.
Ok.
Et du coup, bah. Donc forcément, en fait, je me suis dit, bah la scène, c'est quoi ? C'est comédienne, en fait. Enfin, tu vois, je voyais pas trop quoi d'autre.
Ça a du sens.
Ça a du sens. Et j'ai adoré l'enseignement que j'ai reçu. C'était vraiment formidable. 3 ans à Lyon, avec des super metteurs. Très belle ville, bien sûr, à mesure de test.
C'est moins bien que Saint-Etienne, mais c'est pas mal.
Oh, le gant des Lyonnais.
Un petit peu mieux que Saint-Etienne. Mais...
Oh là là, n'allez pas par là, ni l'un ni l'autre.
Et après, je suis sortie de l'ENSAT. On avait monté une compagnie avec ma promo, etc. Et en fait, on m'a appris vraiment des tas de trucs. On m'a appris, mais vraiment plein de choses. On avait des cours de tout, de combat, de danse, de voix, de dramaturgie. Bon. Mais on m'a pas appris en fait, l'essentiel de ce métier que j'ai compris après. Que j'ai découvert plus tard, que quand t'es comédien, en fait, t'es dépendant du désir des autres. Mmh. En permanence, ouais. Pour faire ton métier. Et en fait, ça, je me le suis pris d'un coup comme ça, sans du tout m'y attendre. Et je l'ai pas bien vécu du tout, parce que je pouvais pas, moi, vivre dans une séduction permanente. Enfin, quelle qu'elle soit, enfin, c'est pas une séduction.
Il faut susciter le désir.
Il faut susciter le désir.
Chez le réalisateur, le mettant en scène. Ouais. Donc en fait, il y a forcément. Alors moi, quand j'ai prenais mes cours, mais on avait même. Nous, on nous disait, il faut susciter le désir chez l'autre.
Voilà.
Il faut être en place avec son désir, ouais. Et son plaisir pour pouvoir susciter le désir chez l'autre. Donc si, ça fait vraiment partie du job, quoi.
C'est ça. Et en fait,
toi,
ça.
C'est quelque chose que.
C'était pas possible. Ouais. Ça, c'était pas possible en numéro 1. Et en numéro 2. Quand je suis sortie de l'école, en fait, je me suis dit, on travaille. Et je me suis dit, attends, il faut un projet. C'est quoi le projet ? Attends, il faut, t'sais. Et en fait, moi, je ne pouvais pas imaginer que parfois, pendant 2 mois, je ne ferais rien. Et après, je travaille. Puis après, pendant un... Enfin, je pouvais pas, il fallait que ce soit
tu
un
pouvais
peu...
pas t'arrêter, il fallait que ce soit en continu quoi,
ouais, ouais c'est ça en fait, ça devait être ma vie pas juste des bouts de ma vie de mon quotidien en tout cas et bien sûr j'écrivais plein de chansons Et les chansons, j'avais commencé à les chanter.
Tu continuais à les...
Ouais, j'écrivais toujours plein de chansons.
Mais tu jouais pas?
Alors, je les jouais pas. J'avais commencé à les jouer un petit peu pour mes copains de promo et tout ça. Alors, voilà. Puis j'avais commencé, c'est vrai, quand j'étais à l'ENSAT, faire... J'avais monté un duo avec une copine qui s'appelait les Sister Love. Et on chantait avec des chapeaux de Youski et tout ça. Et on chantait dans les Restos U. Voilà, mais c'est assez marrant. Puis après, j'ai commencé à écrire des chansons toute seule et tout. Donc, oui, chanter ces chansons. Et en fait, quand je suis sortie de l'ENSAT, j'étais assez déprimée, quoi, de cette réalité, d'attendre le coup de fil, d'attendre qu'on me désire, qu'il y ait un truc pour moi, que je sois choisie plutôt qu'une autre. Enfin, c'est étrange. Et du coup, en fait, à ce moment-là, mon mec m'a dit, mais si tu veux vraiment faire quelque chose, t'as tes chansons. Il y a des tas de bars. On habitait à Paris à l'époque, dans le 11e. Il y a des tas de bars dans le quartier avec des gens qui chantent le samedi soir. Va dans un bar et demande si tu peux chanter. Et là, tu feras quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Moi, j'avais besoin de faire quelque chose. Du coup, je suis descendue dans un bar qui était moitié pizzeria, moitié bar. Et le type était super gentil. Et il m'a dit, moi, je veux bien que tu viennes, mais il faut que tu chantes 2 heures.
Tu chantes 4 ans.
Ouais, 4 ans.
Voilà. Toi, tu veux faire des trucs, tu vas faire des trucs. On a 4 ans, par contre.
Donc, il fallait que je chante 2 heures. Une heure, et après une pause, et puis après une heure.
Et je ne voulais pas faire de reprise.
Et du coup,
tu peux pas faire les deux fois les... Non, deux fois
non,
la même.
Non, deux fois la même, non, ça marchait pas.
Ah, ça marchait pas, ça?
Non, pas le droit. Non, pas le droit. Du coup,
comme le journal de 17h17, tu peux pas remettre. Ah,
pas toujours sur Patrick Bruel. Non, pas toujours. Et du coup, j'étais peut-être descendue à 1h45, tu vois. Mais j'avais écrit plein de chansons, puis j'allais me produire dans ce bar. Et c'était mon mec qui faisait le son et qui faisait le chapeau à la fin. Et je gagnais vraiment des sous en plus, hein.
Ah ouais?
Bah ouais, parce qu'en fait, il martyrisait les gens et il les humiliait quand il donnait 2 euros, tu vois, donc vraiment. Et
je connais. En fait, il les raquettait. Hein.
Voilà, tout simplement, c'était du bol.
C'est les méthodes de la mafia, ça, hein, c'est très connu. Hein. Ouais.
Et voilà, et je faisais mes concerts comme ça le samedi soir. Et là, j'avais vraiment conscience et l'impression, en tout cas, de faire un truc. Parce que la semaine, je me préparais pour. Pour mon... Enfin, voilà, pour mon... Enfin, pour c'était le, pas vraiment un concert, mais... oui, c'était, voilà.
Les 2 heures. Deux heures,
c'était quand même... Mais t'as eu assez de matière tout de suite? T'as pu y aller tout de suite
Non, au début, j'ai dit, quand même, je peux faire 1h30, parce que j'avais quand même quelques années d'écriture. Tout n'était vraiment pas bien du tout, hein.
Tu chantais pas les chansons sur tes copines non plus?
Oui, c'est genre... Et Déborah est arrivée. Mais c'est vraiment... On comprend pas le... On n'est pas trop dans le délire. En fait, finalement, j'ai fouillé, puis je me suis dit, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que j'écris des chansons. J'avais plus trop, en fait. C'était comme, tu sais, tout le temps, quoi, j'en écrivais plein. Donc voilà, c'était comme ça, quoi.
Et après
Et je me disais, ça, c'est cool, et si j'ai ça, je peux accepter la réalité de comédienne. Parce qu'il y a un... il y a un endroit où je satisfais... mon envie de faire quelque chose en le décidant de moi-même, de comment, quand, ce que je raconte, comment je m'habille, comment... tout, en fait. Donc ça, c'est bon, ça, c'est satisfait. Je veux bien ensuite me soumettre aux ordres désir. Et aux désirs de quelqu'un d'autre.
Pretty Woman. Je dis quand, je dis où, c'est ça. Combien.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui est passé à la télé cette semaine?
Pretty Woman. Il y a un mois et demi au moins.
Ah, c'était il y a longtemps, vous avez une bonne mémoire.
Ouais. Je le revois régulièrement.
On est hyper bien, hyper bon comédien.
Ouais, dis donc.
Et donc.
Donc j'étais après en paix. Donc j'ai refait des pièces de théâtre, etc. Et puis...
Des pièces de théâtre de...
Alors, c'était très classique, Shakespeare. D'accord. À la MC93 à Bobigny, tu vois, voilà, très, très... tu sais, école nationale supérieure, donc après, t'as tout ce truc-là, quoi.
Et la comédie française, t'as ouvert les bras.
Et j'ai dit, no way. Non, j'aurais pas voulu...
Non, enfin, la MC93 pourrait avoir été voir un certain nombre de spectacles, c'est une salle somptueuse.
Ah oui, c'est c'est merveilleux.
C'est,
hein.
Pas la, c'est pas la comédie française esthétique. C'est pas la même esthétique.
Non, non.
Mais c'est incroyablement.
Ah oui, oui, c'est super.
Le plateau
ouais, ouais.
est dingue.
Ah oui, c'est génial.
Il y a vachement d'argent. Enfin, ah, je veux oui. dire, ils montent des spectacles magnifiques. Moi, les plus beaux spectacles que j'ai vus à Paris, c'était à la MC 93 de Bobigny.
Mais c'est vrai. Non, et puis ils ont une super programmation et tout.
Et ça, ce boulot de comédienne, enfin, ce boulot, comme si c'était un petit boulot, ce
travail
de code. Est-ce que ça te plaisait de faire ça? De oui. jouer les classiques de...
Oui, ça me plaisait. Bah, après, alors je ne l'ai pas fait longtemps. Parce qu'en fait, assez rapidement, le destin a fait que j'ai commencé à faire que de la musique. Donc en fait, je suis sortie de l'école au mois de juillet. J'ai commencé mes concerts en septembre. Et en mai, je faisais en fait plein de concerts. Donc en fait, j'ai eu que quelques mois. Donc j'ai eu ce projet à la MC 93, un autre projet avec ma compagnie dans un autre théâtre à Paris. En fait, voilà, j'ai joué deux pièces pendant D'accord. assez longtemps. Et puis après...
Mais toi, ton objectif, c'était la musique, enfin les concerts.
Ah non, pas du tout.
Non,
c'était de faire du théâtre. Mais c'est parce qu'en fait, par le plus grand des hasards, un jour, dans ce bistrot, est venu un ami qui était invité là parce qu'il faisait un peu aussi des chansons rigolotes et cette copine a dit « ce serait bien que vous rencontriez ». Et on s'est dit « ah oui, parce que j'avais été upgradée ». Parce qu'en fait, en face du bar, il y a un autre endroit qui s'appelle le Café de Paris. Peut-être vous connaissez, c'est un bar rue Oberkampf qui a une petite salle au fond du bar. C'est un bar vraiment tout simple, mais ils ont une salle.
Et là, tu pouvais jouer 4 heures.
Et je pouvais jouer 8 heures. Et en fait, on avait réussi à avoir le droit de jouer dans cette petite salle. C'était gratuit, etc. Mais comme c'était le seul endroit gratuit dans Paris où tu pouvais jouer dans une salle, tu avais une liste d'attente de 3 ans, quoi. Et donc, on avait une date rue Oberkampf, tu vois. Mais bon. Et donc, on s'est dit, on va faire un truc à deux. Et il m'a dit, c'est dingue parce que toi, tu m'appelles pour faire ça. Et il y a Raphaël Mesrahi qui m'a téléphoné la semaine dernière pour que je fasse sa première partie à La Cigale. C'est fou, là, en ce moment, tout ce qui m'arrive, c'est trop bien. Je dis, ah, top. Et c'était à peu près ma réaction. Et,
dans mon souvenir.
Ah, top. Voilà. Et on était là en train d'essayer de voir ce qu'on allait faire pour cette soirée. Et son téléphone sonne, je comprends que c'est Raphaël Mesrahi, et il a l'air un peu embêté au téléphone, il raccroche, il dit écoute, je suis vraiment emmerdée parce qu'avec mon groupe on a prévu 20 minutes de set, mais Raphaël Mesrahi me demande de faire 30 minutes de première partie, est-ce que tu peux venir chanter 10 minutes à La Cigale ce soir? Et j'ai dit, écoute, moi, je peux chanter 9 heures. Donc, 10 minutes, tu vois, c'est tout à fait dans mes cordes. Vraiment. C'était le soir même à La Cigale. Moi, j'avais jamais fait de scène. Enfin, de vraie scène en musique, quoi.
Et donc... Là, en musique, le plus gros que tu avais fait, c'était la pizzeria.
Oh, ouais, c'était la pizzeria.
Et là, c'est 900 places, La Cigale.
Oh, ouais, c'était... Ouais, c'est 900 places.
Ça bascule vite, hein.
C'est
30 personnes qui bouffent une pizza.
Oui, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, moi, j'avais conscience de rien du tout. Donc, je suis allée... En fait, j'ai même dit à aucun de mes amis parce que je me suis dit, franchement, j'y vais pour 10 minutes. J'ose pas demander d'invitation. Puis je vais pas demander à mes amis de payer 20 euros, tu vois, pour me voir 10 minutes. Enfin bon, donc j'y suis allée comme ça, toute seule. Donc on me dit, puis là c'était hyper pro, tu sais, il y avait des mecs avec des oreillettes là, qui étaient genre,
des mecs en t-shirt noir.
Ouais, c'était vraiment d'un coup, tu sais, j'avais l'impression d'être dans la tournée de Madonna, quoi. J'étais genre, waouh et tout. Et on me dit, ouais, ça va être à toi les balances et tout. Je fais, ouais, à fond. Je
sais ce que c'était, tu vois. Elle a redit, ah, top.
Top.
Et donc, me peser et tout.
On me dit, ouais, vas-y, mets-toi là. Donc je me mets sur scène, puis je me dis, ouais, vas-y, on fait les balances. Vraiment, je savais pas du tout ce qu'il s'agissait de faire, donc je comprends qu'on attend. Donc je me mets à chanter, puis ils me disent ouais, ça va pour toi en retour. Ouais, top, franchement, nickel.
Elle aura fait une carrière sur top.
Top. Et là, derrière, t'as un mec qui passe qui fait ouais, Patrick, faut brancher le retour là parce que. Non, je déconne, c'était pas top en fait. C'est pas bon, rien, je connaissais rien.
Ah, je m'entends.
C'est dingue et tout. Et donc j'ai fait cette première partie.
À un moment, on est escroc comme ça,
bien sûr.
On fait semblant de savoir faire le métier qu'on nous demande de faire.
Bah oui, parce que tu vois, eux, ils sont hyper pros, t'as l'impression de leur faire perdre du temps. Donc je fais cette première partie en fait. Et je sors de scène et il y a Raphaël Mesrahi qui me dit, salut, enchantée, mais t'en as d'autres, des chansons
9 heures.
Ah, c'est ça, je dis, mais enfin. Mais
viens manger à la pizza. Voilà.
Tu connais pas. Et donc, je dis, bah oui, j'en ai plein. Et il me dit, bah, est-ce que tu veux revenir faire la première partie toute seule? Je dis, bah, top. Voilà, d'accord. Et donc, 2 jours après, je reviens toute seule. Mais encore une fois, j'ai pas osé demander d'invitation, etc. Donc, j'étais vraiment seule. Je me disais même pas, c'est un truc de dingue. Je joue à la cigale avec mes chansons à la con, tu vois. Enfin, voilà, avec mes petites chansons, de rien du tout. Je me suis même pas dit, faut quand même au moins que j'ai 2 ou 3 potes qui voient ça. Non, je me suis dit, bah, je vais y aller, puis bon... Et puis, en fait, après, j'ai joué tous les soirs à la Cigale. Et puis voilà. Puis après, quand ça s'est fini, je me suis dit, bon, ça aurait été cool, quoi. C'était 2 semaines. Ouais. Bah, trop cool. Merci, au revoir. Et puis, en fait, 2 jours après, Raphaël Mesraï m'a rappelé en disant, allez, cet après-midi, je t'emmène à Europe 1 dans l'émission de mon copain Laurent Baffie. Tu vas chanter une chanson. Je dis, oh, bah, ok, cool. Alors, j'y suis allée.
T'as pas dit à top.
À top. Non, mais parce que j'avais upgradé. Ouais, ah, j'avais trop utilisé top.
Ouais, bah, et donc, c'est passé à cool.
Il me fallait des synonymes. Okay. Cool.
Bientôt, ce sera Chambé.
Ouais, Chambax.
Parce que c'était il y a quand même un certain nombre d'années. Donc, ouais, et puis j'ai chanté une chanson à la radio. Puis, du coup, bah, Laurent Baffy m'a dit, ah, bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, je joue mon one-man show au théâtre du Palais Royal. Est-ce que tu veux faire la première partie? Donc, j'y suis allée. Puis, j'y allais le soir. Puis, après le spectacle, je ramenais toutes mes affaires, mon costume, ma guitare. Je ramenais tout chez moi. Et puis, je re-ramenais le lendemain parce qu'il me disait, bah, demain. Je dis, ah, ok. Donc, je ramenais tout le lendemain. Puis, je repartais avec toutes mes affaires. Puis, allez, à demain. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il dit, mais pourquoi tu prends tes affaires à chaque fois? En fait, je comprends pas. Je dis, je sais pas quoi. Il me dit, bah, moi non plus, je sais pas. En fait, tu fais ma première partie, en fait, pour pendant 2 mois, en fait. Je dis, ah bon, et puis enfin, mais prends une loge, quoi. Arrête de te changer, là, derrière les toilettes, tu vois. Enfin, t'es là, en fait. Et voilà. Et c'est comme ça, après, que j'ai rencontré mon actuel producteur, etc.
D'accord, voilà.
Et donc, j'ai plus jamais eu le temps de faire du théâtre, en fait. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais plus le temps. Parce qu'il faut, pour un projet théâtre, il faut immobiliser 6 mois au minimum de sa vie, tu vois, s'il n'y a pas de tournée.
Et puis, si tu montes un projet théâtral, ça veut dire qu'à nouveau, tu deviens dépendante de choses que tu ne maîtrises pas. Oui. Alors que là, ce que tu as acquis ces dernières années, c'est que l'horloge... T'es vraiment pretty woman. C'est où je veux, quand je veux.
Mais aujourd'hui, j'ai satisfait ça. Je pourrais aujourd'hui me mettre au service d'un truc. Mais...
Bah, très vite, au final. Parce que tu disais, dès que tu t'es mise à jouer de ton côté, t'acceptais le reste du temps d'être...
Oui, c'est ça. Parce que j'avais juste besoin que ça se soit satisfait. De ne pas être que dans une position d'attente et de me soumettre. Quoi. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, je tourne dans des petits trucs, etc. Mais j'ai cet énorme luxe de pouvoir choisir, quoi. Donc, si je fais un projet, c'est bon, si j'ai le temps. Et puis aussi, si j'ai envie, j'ai pas besoin, comme tous les comédiens du monde, de faire.
Est-ce que t'as cette tentation, quand même, là, de changer, de te mettre à nouveau refaire du théâtre, à jouer?
Ça me ferait plaisir, ça me ferait toujours plaisir.
Peut-être que tu le fais d'ailleurs, je dis ça. Mais...
Théâtre, non, parce que ça, il faut beaucoup de temps et que moi je fais tout le temps des concerts et tout ça. Mais ça m'aurait toujours fait plaisir et ça me ferait encore plaisir aujourd'hui.
Mais c'est une question de temps, tu peux pas.
Ouais, oui, du temps. Et puis je pense que d'avoir goûté en fait la liberté de faire absolument ce que tu veux, après, bon,
écrire une pièce.
Non, je pense que je suis absolument incapable.
Seule, mais peut-être avec...
Peut-être avec quelqu'un.
Avec Juliette, avec...
Peut-être, ah oui. Alors, peut-être avec des gens.
Il y a un projet, là. J'essaye de négocier.
Ah, d'accord. Mais seule, absolument incapable.
Non, tu te sens pas capable? Non, je sais pas.
Non, je serais...
T'as créé des spectacles, c'est une autre mécanique, mais tu as peut-être...
Ouais, mais c'est un vrai métier, tu vois. Ah, non. Non, c'est pas un métier.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas plus un métier que. Enfin, et que tu sais bien, la première fois que t'as écrit une chanson, c'est bien un métier d'écrire des chansons.
Bah oui.
Tu l'as bien fait.
Donc, oui.
Non. C'est juste ça. Oui, par contre, que tu te dises que c'est peut-être plus intéressant d'écrire spécifiquement du théâtre à plusieurs, me semble être...
Non, en fait, je pense qu'une chanson, si c'est nul, c'est nul 3 minutes. Une pièce, si c'est nul, c'est nul 1h30, tu vois.
Oui, mais un spectacle, s'il est nul, il est nul 1h10.
Oui, mais moi, mes spectacles, en vrai, c'est des concerts plus, plus, plus. Mais voilà, je chante mes chansons, je blablate, etc. Mais je présente ça comme un concert quand même. Les gens, ils viennent pour écouter les chansons, pour chanter les chansons. Ils les connaissent, ils savent ce qu'ils vont voir. Enfin, tu vois, bon... non, c'est... Bon,
non, je serais pas...
Il y a des concerts d'artistes qui sont nuls, hein.
Oui.
En entier.
Oui, même si les chansons
c'est
sont
pas
bien
juste
sorties.
Une chanson
oui.
qui est bien et juste l'autre qui est pas bien.
Oui, c'est vrai.
Il y a une question que moi j'ai posée à tous les gens qui sont venus jusqu'ici dans la fabrique.
Ah,
c'est,
la question.
Est-ce que quelqu'un t'a donné l'autorisation de faire ce que tu fais, qui n'est pas le métier le plus convenu. Voilà, tu ne viens pas d'une famille d'artistes.
Non.
Tu ne viens pas d'une famille qui est dans le spectacle particulièrement.
Pas du tout.
Pas
non.
du tout. Et donc nous non plus. Aucun de nous et aucun des gens d'ailleurs qu'on a reçus dans la fabrique. Et donc il faut bien qu'à un moment où toi tu te donnes l'autorisation. Et qu'est-ce qui t'a permis de te donner l'autorisation? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui à un moment t'a dit c'est joli quand tu chantes ou enfin quelque chose qui te semble important?
Déjà bon j'imagine quand même que bon, ma mère a quand même accepté que je fasse des études d'art dramatique. C'est pas évident. Alors après, tu sais, c'est un peu les enfants d'immigrés, tu vois, qui disent « Ok, mais si tu fais du théâtre, il faut que tu fasses une école sur concours, une très bonne école. Tu feras pas juste du théâtre comme ça. » Enfin, voilà, c'était un peu ce truc de, tu vois, on est accueilli dans ce pays, tu vois, on lui doit reconnaissance et tout. Donc,
être légitime, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Par l'école, en tout cas.
C'est ça, c'était très important. Elle acceptait ça, donc elle m'a aidée financièrement à payer mon loyer, etc. Mais à condition que ce soit un truc sérieux, quoi. Enfin, voilà, pas...
pas le cours Florent.
Voilà, alors j'ai dû faire le cours Florent avant parce qu'en fait tu ne peux passer les écoles nationales supérieures qu'après 2 ans de cours de théâtre. Mais alors elle m'a. Donc c'est elle qui m'a aidée également à rajouter pour payer les cours, mais dans l'optique que je passe les concours et que j'ai une école voilà, nationale.
Oui.
Donc j'imagine que d'abord, en premier lieu, c'était quand même ma mère qui, à un moment, elle a vu que c'était. Pas un faux truc de genre « Ouais, mais moi, j'ai être sur scène. Okay. » Enfin, que c'était un vrai, voilà, oui, une vraie volonté. Puis un jour, elle m'a dit « Ok, alors, d'accord, tu veux être sur scène. Et si je te dis que toute ta vie, tu joueras celle qui ouvre la porte et dit « Madame !» Tu vois, je dirais, ben, je dis « Oui, je signe. Ok, moi, ça me va. Ok. » Donc, j'imagine qu'en premier lieu, c'était un peu elle. Mais de faire ce que je fais là aujourd'hui, mm-hmm. à savoir mes chansons telles qu'elles sont, etc., bah, je pense quand même que ça doit être bah, déjà mon mec qui m'a dit va les chanter dans un bar, donc qui
en tout cas c'est ce qui ressort du podcast, c'est beaucoup lui qui t'a poussé
sans me pousser en fait, il m'a fait comprendre que ça pouvait être audible par d'autres gens que juste la viande saoule de fin de soirée, tu vois, qui reste et qui est trop engluée dans le canapé pour partir, et moi autour qui fait « Alors, j'en ai une 72e !» Donc, bon, voilà. Et puis, quand même, voilà, je dois dire que c'est sans doute Raphaël Mesrahi, quand même, qui m'a invitée à le faire de manière... professionnel, enfin c'est-à-dire un vrai truc.
À partir du moment où il y a des retours,
professionnel. À partir du moment où t'es branché avec un jack, il y a des retours.
Il y a des mecs en short noir avec des casques.
Et là, c'est pro. Voilà, donc j'imagine quand même que c'était une validation pour moi, parce que je me suis dit bah c'est quelqu'un qui doit savoir un peu ce qu'il fait, parce que il est, il fait ça depuis longtemps, puis il est installé, on va dire. Mmh. Donc je me suis dit ouais.
Mais quand tu étais au lycée, par exemple, tu te disais que c'était possible de devenir comédienne?
Comédienne?
Ouais.
En vrai, ouais.
Ouais.
Non, mais après, je m'entends.
J'ai un talent.
Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, je disais pas devenir, tu vois...
Claudia Cardinale.
Sophia Loren. Enfin, être comédienne, c'est-à-dire jouer dans des pièces de théâtre, mais bosser à côté, tu vois, avoir un boulot alimentaire et jouer dans une pièce de théâtre le soir, bah non, ça me paraissait pas accessible parce que...
Pas inaccessible,
un petit lapsus quand même. parce que je me disais, bah, au pire du pire, avec mes potes, on va bien réussir à monter un petit spectacle, tu vois, bosser l'été, trouver un peu de sous, tu vois, faire un deal sympa avec un petit théâtre de 40 places.
Mais toi, Juliette, au lycée, tu pensais pas ça ?
Pas du tout.
Non.
Non, moi, j'allais voir les pièces des autres.
Ah, okay. Non, mais parce que je me mettais pas une ambition dingue, tu vois. Moi, je pensais pas...
Moi, ça m'arrivait même pas au cerveau, à ton âge, enfin, à l'âge dont tu parlais.
Ouais, c'est ça. Moi, je me dis pas que... cumuler même un job alimentaire et faire ça en dehors, quoi. C'était même pas un truc qui pouvait infuser.
Voilà, moi, on n'en était pas là de la réflexion. Mmh. On en était juste à se dire, très clairement, je parle sous ton contrôle, Ramzi, mais aux âges dont tu parles, moi, je te dis, je me voyais en gros au mieux de mes espérances comme groupie du pianiste, mais certainement pas pianiste.
Mmh. Et peut-être parce que tu avais une grande exigence.
Non, parce que moi, j'étais une gamine, enfin, je pense que j'étais une gamine très docile et qu'en gros, on avait de grandes espérances sur moi et donc j'allais faire des grandes études et avoir un très bon poste. Et c'était bien la moindre des choses parce que j'avais eu quand même le cul farci de nouilles en ayant des livres chez moi, pas la télé et des parents qui m'emmenaient au théâtre et au cinéma.
Ah oui, moi je pense qu'on n'avait aucune grande espérance sur moi. Donc c'est sans doute pour ça que je me suis dit, oh, écoute, je bosserai la journée et je jouerai dans des petits théâtres le soir. Enfin, c'était pas, je me disais pas ça tous les jours en réveillant, mais ça me paraissait pas...
Non, c'était pas inaccessible.
Ça paraissait dingue, mais t'as raison, en plus, pragmatiquement.
Finalement, oui, en plus...
Et en plus, de manière pragmatique, oui.
C'est possible.
Si c'est vraiment une chose dont tu as envie, voilà.
Moi, j'ai plein de potes qui le font, qui font du théâtre amateur, des choses comme ça.
Et ça rend très heureux.
Ils satisfont ce besoin qu'ils ont d'être sur scène et qu'on vienne les applaudir, même si c'est 12 personnes. Enfin, tout va bien. Et, tu vois, ils arrivent à rentrer dans leurs frais et ça va. Et ça me paraissait pas
Et toi, François
fou.
Au lycée, j'étais aussi fan de Kurt Cobain et je jouais de la guitare et de la batterie.
Savoir, mais ouais, vas-y.
Non, mais j'étais pas encore sur ça. Mais sur la musique, oui.
Ah oui,
c'était
oui,
une possibilité. Pareil, ma mère m'a mis à la musique parce que certainement elle avait une initiation, mais elle voulait absolument qu'on fasse de la musique. Et très rapidement, la scène, moi je suis venu par la musique. Et j'ai voulu retrouver les sensations de scène en tant que comédien parce que je l'avais reçu quand je jouais, quand j'étais musicien. Et très tôt, je me suis dit c'était une possibilité.
D'accord, c'était pas trop loin pour toi te dire que...
Non, après, il y a des trucs qui font que je me suis pas vraiment lancé, mais voilà, mais ça a mis du temps. Mais dans ma tête, oui, je me disais que oui, je pouvais. En tout cas, c'est ce dont je rêvais. Je ne savais pas quoi encore, mais en tout cas, oui, dans le milieu de la musique.
Ok.
Moi, j'avais une dernière question à poser à Guédré.
Vas-y, je t'en prie.
Quand tu étais dans des années d'études à l'ENSAC, donc c'est le moment où tu fais une formation pour devenir comédienne. Guillaume, une fois, avec Guillaume Meurice, on avait parlé d'un truc. On se disait que tout le monde devrait prendre des cours de théâtre, au moins pour une chose. C'est que ça te permet, que c'est le seul endroit où tu peux voir comment les autres te voient. Comment les autres te perçoivent. Parce que il y a... comment tu te vois. Et il y a donc je revenais à ce truc de moi je me voyais comme une pâquerette et en fait les autres me voyaient comme un panzer. Et donc ça fait que le rôle
petit pareil,
petit décalage. Et donc pour les rôles de jeune fille romantique, même à 19 ans, moi ça marchait pas du tout et donc il a fallu que je l'encaisse, mais c'était intéressant, enfin ça m'a servi pour le reste de ma vie par exemple. Et donc toi, qu'est-ce que t'as appris à cet égard dans tes années d'études pour être comédienne? Sur la manière dont les autres te perçoivent.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant. J'aurais pas... Alors après, je sais pas si c'est absolument nécessaire. Je pense qu'on peut le trouver peut-être ailleurs. Enfin, rien.
Je pense que tu gagnes du temps avec les cours de théâtre. Ouais. C'est en accéléré, tu te prends un mur assez rapidement si jamais t'as pas une vision... toi.
Ce que je pensais de moi, en tout cas, ce que je pensais pouvoir offrir dans un spectacle ou le rôle que je pourrais interpréter pour servir un spectacle, j'imaginais quelque chose d'assez léger, tu vois, un peu, tu vois, assez Ouais, léger, quoi. Mmh. Et en fait, on m'a rapidement dit, ah non, non, mais en fait, c'est la tragédie. Bon, après, j'ai suivi des études très théâtre classique, etc.
Mais même dans le théâtre classique, il y a un répertoire rigolo, léger.
Ah, mais absolument.
Chez Molière, chez...
Oui, bien sûr.
Enfin, il y a certains personnages chez Molière, chez Marivaux.
Oui, oui.
Mais toi, non. Toi, on t'a dit que non.
Oui, mais ce serait...
toi, c'était Médée, quoi.
La tragédie, oui, c'était
Fèdre. Ah, Médée, moi aussi. Moi, pareil.
C'était Fèdre, quoi. Et je me suis dit, bah... Enfin, pourtant, je suis tellement sympathique, tu vois. Bon, mais
enfants, mais c'est tout.
Oui. Et non, oui, c'est vrai que j'ai découvert qu'on me percevait plutôt comme ça, qu'on me percevait en fait comme quelqu'un qui pouvait, en tout cas, incarner quelque chose de fort, alors que moi, j'étais persuadée de ne renvoyer que de la fragilité et du manque de confiance en soi, etc. Parce que c'est comme ça que je me sens. Donc, je pensais que c'est ce qu'on percevait voyait. De moi aussi.
Mais c'est passionnant de découvrir ça.
Oui.
C'est douloureux, oui. Un peu.
Pour moi, ça n'a pas été douloureux. Douloureux, je dirais pas. Étonnant. Étonnant, okay. Mais je ne l'ai pas mal vécu. Je me suis dit, bah, je me suis quand même un peu trompée, j'aurais gagné quelques années, comme tu dis. Je n'ai pas trouvé ça trop douloureux, okay. Parce que du coup, en fait, c'est intéressant, parce que tu découvres tout un truc où tu ne serais jamais allée par toi-même. Parce que tu te dis, mais non, enfin, moi, je suis la petite rigolote. Enfin, tu vois.
Bah, c'est top.
C'est top.
C'est top.
Ça, c'est un très bon mot pour finir.
C'est top.
C'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci Guédré.
Merci à vous. Guédré. J'ai beaucoup parlé, non?
C'était super.
Oui, mais c'était
un peu le but d'un podcast.
Je sais pas, comme au début, on m'avait pas branché mon micro, j'ai pris ça un peu comme un signe. Tu vois,
c'était une provocation.
Je me suis bien vengée.
C'est pour démarrer. On t'a démarré.
J'ai bien utilisé tous ces câbles.
Oui. On va faire ce qu'on a oublié de faire sur les deux derniers podcasts, c'est un peu de promo.
Eh oui.
Guédré, ah bon, t'es en spectacle.
Je suis sur la fin de cette tournée-là. De l'album, ça va faire presque 2 ans, pas tout à fait. Donc il doit me rester quelques dates. J'ai Paris.
J'ai vu qu'il y a La Cigale et ouais. Plougastel.
Oh bah, oui, c'est ça. Oh non, j'ai une date aussi au Haillan à Bordeaux avec Frédéric Fromet.
On connaît bien.
On va faire un co-plateau. Voilà, donc il va y avoir peut-être encore quelques dates de ce tour-là.
Jusqu'à fin septembre?
Oh non, non, je vais m'arrêter avant l'été parce que je pense qu'en septembre, je vais démarrer une nouvelle tournée. Mais
avec un nouveau disque?
Pas sûr. Il sera temps d'en parler, mais ouais. Donc là, c'est les dernières dates.
Et ton livre, La boîte de petits pois, est encore en vente?
Ouais, il a une chouette histoire, parce qu'on en est à je ne sais plus quelle réimpression. Moi, je me disais, je ne sais pas si ça va intéresser, mais... Oui, il a une chouette vie. Il est encore là. Et puis, il y a des projets annexes autour de lui qui sont en train de se monter. Ouais, alors bon... Je ne veux pas me porter la poisse.
Bon, on dit rien.
Mais voilà, et il va... peut-être continuer d'exister. Voilà.
Et une chronique tous les 15 jours, les mercredis, dans C'est encore classe.
C'est ça.
À 17h sur France Inter.
Eh oui. Voilà. Non, je suis vraiment bien, bien heureuse. Ça m'apprend beaucoup. Cool.
Merci François.
Merci Ramzi.
Merci Juliette.
Merci Ramzi.
Merci à toutes et à tous et à bientôt.
Dans la fabrique. Oh.
'Extra' might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.